Bonjour à tous et bienvenue dans School Stories, le podcast qui vous fait découvrir les écoles autrement. Ces dernières sont en pleine mutation et doivent faire face au changement de paradigme du secteur de la communication. Aujourd'hui, les usages changent, les métiers aussi. Mais quels sont les nouveaux enjeux de la communication? Comment relever les défis du numérique? Quelles solutions pédagogiques pouvons-nous apporter aujourd'hui? C'est pour répondre à toutes ces questions que nous allons interroger les différentes écoles du secteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de School Stories. On va parler ensemble des différents cursus, des différents débouchés, des différents métiers auxquels prépare l'école EFRE Paris, grande école du numérique. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Romain qui est lead UX designer, UX researcher depuis plus de 13 ans en freelance, mais aussi entrepreneur puisqu'il est cofondateur de la société Monsieur T-shirt et évidemment intervenant sur les masters UX et CX Innovation au sein de l'EFRE. Salut Romain, comment tu vas?
Ça va très bien, et toi? La forme?
Ça va plutôt bien. Ouais. On va avoir un sujet qui, je pense, va intéresser beaucoup de personnes. Moi, le premier, notamment sur le job de UX Researcher. On va essayer de comprendre quels sont les leviers et comment est-ce qu'on va devenir UX Researcher. Déjà, job que je découvre, entre guillemets, parce que UX Designer, ça me parle. UX Researcher, un peu moins. Est-ce que tu peux commencer par me donner déjà une définition? On va revenir sur toi et ton parcours, mais déjà, tu peux me donner une définition et peut-être une différence entre le premier et le deuxième des jobs?
Complètement. La recherche, donc UX Research, c'est vraiment concentré sur deux étapes clés de l'ensemble de la méthodologie de l'expérience. Il s'agit de comprendre l'humain, de comprendre les gens, pour optimiser des expériences qu'on peut créer sur le web, mais pas que, ça peut être en boutique, ça peut être sur du packaging, ça peut être pour des événements. Mais il s'agit vraiment de mettre en place, à travers tout un protocole, des études existantes qu'on peut créer avec mes équipes. On est amené à créer des études pour essayer vraiment de comprendre l'humain, déceler les émotions, pour en faire procurer dans les expériences que derrière, on va être amené à en créer, à la fois dans le métier du UX design, si on élargit un peu le propos, et dans la résultante, qui est plutôt la partie UI, donc l'user interface, donc la création visuelle des différentes expériences qu'on aura pensées en amont. Donc la recherche est concentrée sur vraiment l'humain et déceler ce qu'il y a un peu dans votre tête. Donc une vision anthropologique, sociologique des éléments à travers des études qu'on peut créer.
D'accord. Donc on sera sur quelque chose d'un peu plus profond aussi. Ça va être une réflexion plus poussée. Est-ce que c'est des choses qui sont aujourd'hui à la connaissance de tous? Parce qu'effectivement, on connaît beaucoup l'UX designer. Est-ce que ce job-là, UX researcher, il est bien implémenté dans les têtes? Est-ce qu'on le découvre encore?
Non, mais même le métier du UX design aujourd'hui, il n'est pas vraiment implémenté. Il y a beaucoup d'évangélisation à faire sur le sujet, donc encore plus sur la recherche pure. Aujourd'hui, on a un vrai travail au quotidien d'évangélisation auprès des personnes pour qui on travaille, que ce soit des grands comptes, des petits comptes, puisqu'on a une vision. Et pour moi, c'est un peu une antinomie, puisqu'on appelle ça UX design. Donc le design vient un petit peu biaiser ce qu'est l'UX, puisque dans le principe même de l'UX, par définition, on fait pas vraiment le design. Oui. On est vraiment là sur la réflexion. Et dans cette réflexion, il y a un pan qui est très important, qui est la recherche. Donc c'est vraiment les premières étapes. Et à partir du moment où déjà le métier du UX est un peu biaisé, donc il y a un vrai travail du quotidien à mener, il est encore plus le cas aujourd'hui sur le métier de UX researcher.
Ouais, ouais.
Aujourd'hui, c'est pas vraiment implémenté dans les sociétés. On fait appel à des externes. Mais comme quand on a des sprints très poussés sur des missions, sur le travail du UX, on fait appel à des externes, il n'y a pas énormément de boîtes, même si on commence vraiment, le marché il évolue bien, il est plus en plus porteur, même si on commence vraiment à implémenter ça dans les sociétés, il y a des services qui se créent, il y a des leads qui se montent, il y a des silos qui se créent autour de l'UX, mais sur la recherche, aujourd'hui, ça reste marginal. C'est pour ça que c'est plutôt des indépendants qui travaillent autour de ces métiers-là.
Hyper passionnant. Tu peux me dire d'où ça vient ton intérêt pour ce sujet? Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu voir en cours? Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà en toi depuis longtemps?
Pas du tout. Alors, quand moi j'étais à l'école, ça remonte quand même à 17-18 ans. On faisait des formations dans le digital et c'était le début du digital. Instagram n'existait pas. On était au début de Meta et c'était vraiment tout le début. Donc, on était plus sur une vision strat un petit peu du digital. Donc, il n'y avait pas de formation autour de ça. Il n'y avait pas de formation et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de formation purement adaptée à la recherche. On va l'enseigner, on va le transmettre dans le cadre de cursus, comme on peut le voir à l'EFRE, autour de l'UX design. Donc là, effectivement, il y a des formats, mais ça n'existait pas. Et moi, ça arrivait un petit peu sur le tas puisque j'ai commencé à faire mes premiers sites sur Photoshop à l'époque. Ça crachait beaucoup d'ailleurs. On ne se rend pas compte de la force de ce qu'est Figma aujourd'hui. C'est un outil qui est d'une puissance folle. On a commencé sur Photoshop, donc on commençait vraiment juste à créer à l'époque. Puis après, il y a eu l'apparition du no-code, aujourd'hui l'IA, etc. Mais on était vraiment sur de la création pure. On a pris conscience que l'humain était important avec le temps, sur l'interaction machine-humain qui est arrivée. Et on s'est dit, ça serait peut-être intéressant d'analyser comment les émotions... comment on peut se faire procurer des émotions, et ça part de la base qui est l'analyse. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à initier autour de la recherche. C'est comme ça que moi je m'y suis mis, en lisant beaucoup, en vraiment de manière très autodidacte au début. Et donc je me suis passionné de psychologie, d'anthropologie, de sociologie, pour justement comprendre l'humain, qui est pour moi l'essence même de nos métiers. Et c'est ce qui va faire. Et aujourd'hui, je suis pas un partisan de dire que l'IA nous remplacera. À partir du moment où on a la main sur l'IA, à partir du moment où on a la main sur la machine, ça, elle ne nous remplacera pas. Et à partir du moment où on est des penseurs et pas des exécutants, voilà, il n'y a pas de raison que... voilà, c'est plus un collaborateur, un compagnon du quotidien. Et donc, du coup, pour être penseur, il faut comprendre. Donc, on essaye de comprendre l'humain. On essaye de vous comprendre.
Pour ceux qui se projettent et qui, évidemment, pensent à leur carrière, leur future opportunité, etc., est-ce que tu peux nous dire en quoi UX Researcher est un métier d'avenir ? J'imagine que tu ne vas pas me dire le contraire, mais en tout cas, qu'est-ce qui nous prouve que ça va être un métier qui va prendre de l'ampleur, qui va aussi, parlons des vraies choses, payer, bien rémunéré ? Qu'est-ce qui va faire que les étudiants vont se projeter et vont se former à ce job-là, ou en tout cas à cette manière de penser ?
Alors déjà, c'est un métier passionnant. Et aujourd'hui, c'est important d'apporter du sens à ce qu'on fait. Et on le voit, c'est très générationnel. Hein. À l'instar de nos parents, à l'époque, qui pouvaient faire 30, 40 ans dans une même boîte avec un métier très chronophage. Aujourd'hui, on a la chance, et moi j'ai la chance, je ne vais pas à l'usine. Je suis content d'être le dimanche soir pour arriver et travailler le lundi matin. Et ça... Alors, bien sûr qu'on parlera de la rémunération après, et elle n'est pas occultée, mais c'est quand même un luxe qui vaut beaucoup d'aimer ce qu'on fait. Et ce métier, il est passionnant, puisqu'on apprend sur l'humain. Moi, je peux très bien apprendre sur toi, Valentin, je peux très bien apprendre sur tes équipes, essayer de comprendre comment ça se passe. Et donc, il n'y a pas une seule mission qui ressemble à une autre. Si je prends le cas de mes 5 dernières missions, j'ai pu analyser des femmes qui achètent de la cosmétique. Dernièrement, j'ai pu analyser des malvoyants et des non-voyants pour l'accessibilité au web. Avant, j'ai pu analyser des salariés de chez Verisure, par exemple. Et donc, en fait, il n'y a rien d'aliénant d'apprendre sur les gens. Dans le fait que c'est un métier d'avenir, c'est que aujourd'hui on le voit. Alors c'est une vision qui est très personnelle. Je suis un anti-persona. Je n'aime pas ce principe des personas parce que je trouve ça beaucoup trop structurant dans l'approche et trop stéréotypé. On peut, si on prend un exemple sur une segmentation très standardisée qui est 18-25 ans, donc on va le cadrer dans un persona. Aujourd'hui, il y a 10 000 profils des 18-25 ans. Et donc, on essaye de comprendre à travers des critères comportementaux qu'on appelle du data mining, à travers de l'analyse comportementale, qui sont ces 18-25 ans, en analysant concrètement qui est l'humain. Et donc, à partir de ce moment-là, par le fait qu'aujourd'hui, les comportements divergent, les comportements changent d'une personne à une autre, aujourd'hui que les personnes sont de moins en moins fidèles, essayer de comprendre pourquoi ils sont de moins en moins fidèles aux marques, comprendre tous ces principes-là, fait que ça reste et ça restera un métier d'avenir, puisque ces comportements évoluent tellement vite, et on le voit, ne serait-ce que depuis le Covid, les changements comportementaux que nous on a analysés sur les différentes études sont énormissimes. Et donc on peut pas cloisonner, on peut pas mettre l'humain dans un carcan, donc il faut aller à la rencontre de cet humain-là. Donc ça reste et ça restera un métier d'avenir. On va dire le challenge des années à venir, c'est de faire comprendre aux marques, aux grands comptes, aux petits comptes, aux startups, et bah que c'est un métier important, qu'il faut investir dans ça. Parce qu'investir dans ça, bah, ça fait gagner des années d'expertise sur à qui on va s'adresser. Et donc, ça va influencer les strates social media, ça va influencer vos actions de com, ça va influencer vos apps, vos sites, toute expérience que vous allez être amené à créer.
Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui, si tu as eu une rencontre dans ce secteur-là qui t'a un petit peu fait switcher, ou en tout cas qui t'a dit « Ok, je sais que c'est là-dedans que je veux continuer, je sais que c'est là-dedans que je vais passer du temps ». Me poser, je sais que je suis là à ma place sur ce type de job.
Alors, j'ai rencontré plein de personnes passionnantes. Certaines sont devenues des mentors. La première personne qui m'a initié à la strat, et je pense que l'analogie la plus forte entre l'UX Researchers qu'on peut faire, c'est avec le planeur strat aujourd'hui. Mais à l'époque, lorsque j'étais à l'école, j'avais une dame qui s'appelle Catherine Guérin, je l'embrasse, qui m'a initié à la stratégie et qui m'a initié à l'époque à ce qu'était une cible. Et de déstructurer un petit peu ce qui était la cible. Et donc, ça m'a donné l'envie de comprendre les gens. Et puis, avec le temps, en lisant, il y a des ponts dans l'UX d'Anne Norman, Sylvie Domal qui a écrit des livres dans ce sens-là. J'étais amené à rencontrer des gens qui m'ont poussé dans la méthodologie que j'ai pu déployer. Des personnes comme Aline Friedisri, Serge Rocco, pour ne citer qu'eux, avec qui je travaille beaucoup. Des personnes comme Cynthia Sinan aussi, qui m'ont donné envie d'aller en profondeur. Et ça m'a poussé à faire ce métier et à le développer et à le transmettre auprès des gens que je peux côtoyer, autant dans les entreprises que dans certaines écoles dont les frais.
Pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de se projeter, où est-ce qu'on peut exercer ce job-là ? Est-ce que c'est uniquement l'apanage des structures de conseil, des boîtes de design, ou est-ce que c'est aussi les grands groupes qui vont se structurer et avoir ce type de job-là et d'équipe ? Est-ce que c'est plutôt que des métiers d'agence ? Où est-ce qu'on peut faire ce métier ?
C'est super compliqué de tenir un discours générique sur ça, parce que ça dépend aussi... la maturité de chaque entreprise. Oui. Vous avez des startups aujourd'hui qui ont une maturité très forte alors qu'ils sont 20. J'ai un pote dans la com, pour ne citer que vous, et qui peuvent très bien initier en fait à ces sujets-là. Vous avez d'autres startups qui ne le pourront pas, et que ne serait-ce que de prendre un UX designer déjà est un investissement. Et donc du coup, amener à de la recherche, c'est un peu moins évident. Et donc on va prendre un UX designer qui va essayer de faire tout. Le problème, c'est que faire tout, on fait rien. Et donc, il faut prendre des experts. Et donc, ces experts se trouvent dans des agences de conseil qui vous placent sur des missions lorsqu'il y a des sprints. Et lorsque vous avez un projet vraiment très sprinté d'un an, pour un grand compte, va vous faire intervenir en tant que lead sur cette mission sprintée. Et puis, vous avez des grands comptes qui commencent à intégrer ces métiers-là. C'est encore marginal. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on intègre et on commence à intégrer des équipes de UX design. On n'a pas des équipes de UX research aujourd'hui, mais on commence à avoir des représentants de la recherche. Je prends l'exemple, j'ai fait une mission chez L'Oréal il y a un an pour initier à la recherche. Et donc, j'étais externe à L'Oréal. Je suis venu en évangélisateur de ce métier-là. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est important de faire de la recherche. Et donc, et du coup, ça fait bouger les choses. Et faire bouger les choses, ça fait partie aussi de mon métier, puisque le but, c'est de casser un peu les codes.
Comment on explique la nécessité de la recherche à des entreprises qui sont en flux tendu, qui ont très peu de temps, très peu d'argent, et qui, malgré tout, ont besoin d'une présence en ligne, d'une app qui fonctionne, d'une relation avec les utilisateurs cohérente, efficace, mais qui n'est peut-être pas sensible à ça, entre guillemets ?
C'est une superbe question et on pourrait avoir 3 heures dessus. En fait, il y a plein de manières de faire pour évangéliser ça. Effectivement, là... tu viens de mettre le doigt sur quelque chose qui est ultra sensé, c'est qu'on est dans des objectifs de rentabilité. Il faut tout le temps pondre, faire, travailler, produire, du test and learn quotidien. Donc c'est pas évident, mais il y a des techniques pour ça. La première chose, c'est de montrer que la recherche, elle est au cœur de tous les corps de métier. Alors là, on parle de UX researcher, mais en vrai, moi j'aime bien plutôt appeler ça de la recherche. Parce que vous pouvez très bien initier de la recherche pour du social media, pour des agences qui font purement du social media. Vous pouvez très bien initier de la recherche pour des agences de pub pures. Vous pouvez très bien initier de la recherche pour « j'ai un pote dans la com ». Et le but, c'est d'analyser les gens. Donc à partir du moment où analyser les gens va permettre de comprendre les gens pour que vous, derrière, vous soyez rentable et scalable, à partir de ce moment-là, ça devient central. Nous, notre rôle, c'est de le montrer. C'est de montrer que quand on récolte de la data, quand on récolte de l'insight, et c'est pour ça qu'on met en place, par exemple, ce qu'on appelle, c'est ce que je fais avec mes équipes, un recherche système, un endroit où la recherche, elle est accessible à tout le monde, à la force de vente. Le commercial qui va aller vendre son aspirateur, il faut comprendre à qui il va vendre son aspirateur. Et donc, il peut très bien se connecter à ces recherches systèmes pour avoir un insight, une data, un élément qui va faire en sorte demain de comprendre mieux son consommateur. Ça peut servir les RH, ça peut servir... les salariés, ça peut servir plein de choses. Nous, on a eu des retours sur des interviews énormissimes où les gens se sont lâchés complètement, justement, puisqu'on est en plus de ça externe. On est devenus des psys pour justement donner plein d'informations, pour faire remonter ça à des codires, à des directions, pour montrer comment ils sont, accompagner le changement. Et donc, on montrait que cette recherche-là, elle est centrale. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on va pas faire de l'utopie non plus. On est dans une société où on doit faire vivre des boîtes. Et donc, faut montrer que la recherche, elle est scalable et elle est rentable. Et donc, il faut nourrir des KPI pour montrer que cette recherche-là va permettre, dans un premier temps, la plupart pensent que c'est perdre du temps, mais in fine, lorsqu'ils reçoivent toute la data que nous, on arrive à évangéliser, à choisir la bonne donnée, le bon insight, ça fait gagner du temps sur les campagnes, sur les mécaniques, sur les expérientiels, et peut-être que 3 mois de recherche, ça fait gagner 2 ans in fine de projet. Et donc, faut montrer qu'il y a des KPI qui sont générés de cette recherche-là et que c'est pas des choses qui sont hypothétiques, c'est des choses qui sont factuelles. Nous, on se nourrit d'une data qui est factuelle, on se nourrit d'un insight qui est factuel. C'est pas seulement de l'utopie ou de l'uchronie si on arrive avec des trucs un peu plus hard.
Non, mais c'est bien de se projeter aussi et de répondre concrètement à ces entreprises-là. Aujourd'hui, en termes de compétences, qu'est-ce qu'il faut savoir faire techniquement? Tu vas parler de data, tu vas parler de choses très concrètes et en même temps, tu m'as aussi donné des infos sur une certaine posture à avoir de chercheur, ne serait-ce que sur la définition de chercheur. C'est un état d'esprit aussi, c'est une fidélité, c'est une manière de travailler. Quelles compétences il faut avoir pour faire ce job-là et avancer dans cette voie?
Alors, ce n'est que ma vision des choses. Voilà, on ne fait pas des mathématiques, donc il y a autant de visions qu'il y a de UX researcher, de UX designer, de chef de projet digital. Voilà, chacun gère son métier comme il a envie de le gérer. Moi, je me projette dans quand je recrute mes équipes, je recrute pas sur des compétences. Je recrute sur la personne que j'ai en face de moi. Les compétences, on est là pour les transmettre, pour apprendre. Moi, je suis là pour faire monter en compétences mes équipes. Bien évidemment que c'est bien de savoir utiliser un outil comme Airtable. Bien sûr que c'est bien de savoir utiliser un outil comme Figma. Aujourd'hui, on a une chance incroyable qui est le web et qui fait qu'on peut tout apprendre à travers Internet. L'objectif, c'est de, voilà, d'avoir ces soft skills que tu viens d'évoquer. Et donc, dans ces soft skills-là, c'est de l'empathie. C'est-à-dire qu'il faut savoir écouter. Faut savoir faire ressortir des choses dans des interviews, dans des études qu'on peut créer, dans des études qu'on peut mener, bah, d'être le plus innovant possible, parce qu'on est amené à essayer de repenser à chaque fois les études, repenser les méthodes. Mais ça, c'est que ma vision des choses. J'ai une méthodologie, mais chaque méthode est adaptée à chaque client pour qui je travaille. Parce que si je le fais pas, déjà, je m'ennuie. Et le but aussi de notre métier, c'est d'intellectualiser ce qu'on fait. Et ça part par repenser ce qu'on fait à chaque fois. J'ai pas une reco qui ressemble à une autre, j'ai pas une méthodologie qui ressemble à une autre, et donc il faut toujours innover et avoir envie d'innover. Il y a cette empathie qui est importante, et puis il faut savoir vendre. Parce que nous, on crée pas des vaccins, on sauve pas des vies, on est là pour vendre des choses, on est là pour vendre ce qu'est la recherche pour l'évangéliser, on est là pour vendre aussi la data que nous on a récoltée pour montrer qu'elle est importante, et donc il faut savoir. Maintenant, la vente aussi, ça s'apprend. Ça s'apprend de savoir faire des keynotes ou des PowerPoints. Je suis d'ailleurs un anti-Canva. Pour moi, c'est un cancer de la présentation.
Tu recommandes quoi, pour info?
Je peux recommander Canva, mais repartir d'une base vierge. J'en peux plus de ces templates que je vois dans le boulot avec les mêmes animations, des mêmes bulles, des mêmes trucs.
Mais c'est hyper paradoxal. En plus, on fait une petite parenthèse, mais je suis assez d'accord sur le fait qu'en plus, ils ont rajouté l'IA sur Canva. Donc, tu peux te permettre des trucs de dingue. Et c'est hyper paradoxal parce que parmi toutes les opportunités que tu as, on voit quand c'est une presse Canva. Tu vois ce que je veux dire? On voit la mécanique de base du truc qui a été placé là, au bon moment. C'est un peu infernal, je suis d'accord.
Mais Canva, mais repartant de zéro.
Ok.
Dire. Mais du coup, il faut toujours réfléchir, penser, analyser. Et puis après, il y a des compétences qui s'acquièrent avec le temps. Et nous, en tant que lead, on est là pour transmettre ces compétences-là. On est là aussi pour transmettre ce qu'est une empathie, pour transmettre des techniques, pour mettre en confiance les gens quand on les interview. Mais ça, c'est des choses qui s'acquièrent avec le temps. Moi, je suis pour, si vous avez de l'empathie, si vous savez vendre, si vous êtes passionné par l'humain, parce qu'il faut être passionné par l'humain, si l'humain, vous en fichez, il n'y a pas d'intérêt. Si vous voulez pas savoir comment ça se passe dans la tête de quelqu'un, si la socio ne vous intéresse pas, si l'anthropologie ne vous intéresse pas, si mettre en place des études, si aller à la rencontre des gens ne vous intéresse pas, ce que moi, je ne blâme pas, chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire, c'est pas un métier qui vous intéressera.
Ouais. C'est bien aussi de nous raconter ça pour ceux qui nous écoutent, parce que c'est important de se projeter, c'est important de prendre le temps de choisir son école, choisir son cursus, parce que on va évoluer dans un marché un petit peu concurrentiel, on va évoluer dans un marché avec des métiers, des compétences qui vont vite évoluer. Donc il faut, je dis pas qu'il faut pas se tromper, mais en tout cas il faut bien prendre le temps de réfléchir à ce que tu nous dis aujourd'hui sur les compétences, sur l'univers dans lequel on évolue, sur le type de structure qu'on peut aider, accompagner. Ça permet aussi de se dire, ça me va. J'ai découvert que c'était telle structure. Moi, je suis plus petite boîte. Ou à l'inverse, moi, j'ai des envies de grandeur, j'ai des envies d'international. C'est plus facile si je vais dans un grand groupe. C'est important pour nous, tous ces éléments d'info. Est-ce qu'il existe, c'est la question phare évidemment, mais est-ce qu'il existe une voie royale pour arriver à ce métier? Ou plus largement, qu'est-ce que tu fais avec tes étudiants de l'EFRAY pour les amener à ce job-là? Est-ce que tu considères que toi, tes cours donnent des vraies clés pour arriver à ce job-là?
J'espère, mais ça c'est à eux de le dire. Mais il n'y a pas de voie royale. Vous pouvez très bien aller à l'université, faire une école privée, alternance. En fait, il n'y a pas de voie royale. C'est, je pense, les intervenants qui feront la différence dans la manière dont ils transmettent leur métier. Et c'est comme ça que je recrute mes intervenants, mes équipes avec qui je travaille depuis plusieurs années. C'est soit j'ai déjà travaillé avec eux, donc je vois comment ils transmettent, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure, on a un rôle d'évangélisateur au quotidien. Donc si on n'arrive pas à évangéliser auprès d'étudiants, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'on fait. Je pars du principe qu'il faut théoriser les choses. Il faut intellectualiser notre travail, sinon, il n'y a pas d'intérêt, et sinon, toutes les presses sont les mêmes, la manière de faire est la même, et donc, il faut essayer de comprendre les choses. Donc, il y a une partie qui théorise les éléments, et puis après, on applique sur le terrain, on va à la rencontre. Je sais que, du moins, j'essaye de transmettre ça à travers des choses qui sortent du cadre d'un cours classique. On va dans la rue, on fait des études sociologiques pour éviter d'avoir des préjugés sur les gens, pour essayer de comprendre les émotions. On met en place des études, on va dans le métro pour analyser les gens en fonction des lignes de métro. Et on essaye de sortir du cadre classique du cours. Je sais que j'ai pu créer un espèce de fort boyard de la recherche avec des petits challenges pour justement attirer l'attention, puisqu'on se rend compte que les étudiants, moi ça fait 15 ans que je fais ça, mais les étudiants, l'attention fait que baisser. Et donc il faut essayer de les garder actifs tout le long d'un cours, et donc ça passe par des petits challenges. Ça passe aussi dans cette transmission de montrer ce qu'on fait au quotidien, parce que c'est bien beau de montrer des données qu'on récupère sur Wikipédia, et ça m'embête fortement quand on transmet et qu'on enseigne. Mais ce qui est important pour un étudiant, c'est bien évidemment théoriser, mais aussi de montrer comment ça se passe une reco, montrer comment ça se passe un quotidien. Je vous prends un exemple tout simple. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc on a fait toute une étude à travers les malvoyants et les non-voyants pour un grand compte, mais je crois que j'ai spoilé tout à l'heure quand j'en ai... Je sais pas si j'ai vraiment le droit, mais c'est bon, c'est pas très grave. J'avais jamais travaillé sur l'accessibilité au web. Et quand on arrive et qu'on fait une interview et qu'on doit gérer la personne qu'on interview et un chien, pour quelqu'un qui est malvoyant ou qui est non-voyant, et ça, vous l'anticipez pas. Et le but, c'est de montrer. Et nous, on filme tout ça. Et c'est de montrer concrètement comment ça se passe, comment on définit les protocoles. Donc moi, je pars du principe que je dois montrer ce que je fais sans forcément les donner, parce qu'il y a des choses qui sont confidentielles, mais c'est de montrer. Et donc, c'est ce que je tente de faire avec mes étudiants. Et c'est comme ça que je briefe et que je demande à mes intervenants de transmettre aussi. Et j'essaye de prendre que des gens qui sont passionnés. On a de la chance vraiment de faire un métier qui est, enfin, c'est hyper intéressant. Moi, j'adorais passer avec toi, Valentin, 1h30 pour essayer de comprendre comment t'es dans ton utilisation du quotidien. Moi, je veux pas savoir comment t'es dans la vie privée. Ça n'a pas d'intérêt pour moi. Mais par exemple, si demain je travaille sur ton utilisation, ta consommation aujourd'hui du podcast, j'aimerais trop passer 1h30 avec toi pour savoir comment ça se passe.
On peut s'organiser.
Avec plaisir. Donc voilà, globalement, comment je conçois du moins la formation. Il n'y a pas de voie royale. Et voilà, il faut se spécialiser, c'est sûr, dans le métier du UX designer. Et dans ce métier du UX designer, vous aurez des séminaires de recherche, vous aurez des séminaires où on va vous pousser à ça, on va vous présenter des méthodologies. Il y a un biais d'autorité qui s'opère en cours, forcément. Moi, je suis de cette partie-là de la classe, donc ils ont l'impression que j'ai la science infuse. Non, moi, les étudiants m'apprennent plein de choses. Et donc, je suis partisan de, quand je transmets une méthode, qu'on repense cette méthode du point de vue. Et donc, eux, ils doivent repenser leur méthodologie de travail, qu'ils repensent par eux-mêmes et qu'ils sortent de ce carcan très aliénant de « on fait, on applique ». Non, on fait, on pense, on retravaille et on applique. Et je pense que ça, c'est important dans nos métiers.
C'est quoi la pire erreur qu'un jeune qui nous écoute et qui se lance dans ces métiers-là puisse commettre ?
L'impression de tout connaître, et on en voit beaucoup. Alors j'ai la chance de ne pas en voir les frais. Donc ça fait 2 années que je suis là-bas et que j'ai ma spé. Il s'avère que j'ai 2 promos et si jamais ils écoutent, je les embrasse parce que c'est des petits frères et des petites sœurs pour moi et je les apprécie énormément. Et je ne le ressens pas chez eux, mais il ne faut pas avoir cette impression de tout connaître. Et ça, on le voit trop. Ils ont vu... un cours sur ce qu'est un insight, ils ont l'impression de connaître et de savoir faire un insight. Aujourd'hui, moi, je vous ai dit, ça fait plus de 15 ans que je travaille. Je peux pas vous dire et je peux pas avoir la prétention de dire de savoir ce qu'est un insight. En fait, on apprend au quotidien de ce qu'est un insight. Et donc, avoir cette prétention-là fait que du coup, ça biaise complètement le travail. Moi, je suis pour bousculer les codes, mais il y a beaucoup de conflits générationnels aussi quand on arrive dans les boîtes, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent, qui ont l'impression de tout connaître. Et donc, du coup, ça vient un petit peu amener une rupture avec nos N+1, N+2, ceux qui nous lead. Parce qu'on veut vite monter sur les recos, alors que ça fait 10 jours que je suis dans la boîte et que c'est normal que je dois monter sur les recos ou sur la recherche. Ouais, mais non. Déjà, observe, apprends, comprends, repense. Et donc voilà. Et ça fait partie des règles que moi j'impose au premier cours que j'ai avec mes étudiants. À partir du moment où on respecte, on est poli, après le reste, généralement, ça se passe très 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 bien.
Ça se passe bien. Mais c'est canon d'avoir ton retour aussi en tant qu'intervenant, parce que tu donnes aussi ton avis sur les étudiants, tu donnes ton regard, et je pense que c'est ça qui importe les étudiants, les futurs apprenants, c'est de savoir qui est-ce qu'ils auront en face d'eux. parce que malheureusement, trop de formations, trop d'écoles mettent en face des intervenants pros qui sont là un peu pour faire des heures sup, prendre un peu de cash et qui au final apportent très peu de valeur, qui sont là au début pour faire le brief, à la fin pour le rendu, mais qui ne sont pas là pour faire apprendre. Et toi, on a vraiment le sentiment que c'est totalement l'inverse, que tu es hyper engagé et ça rassure aussi ceux qui nous écoutent par rapport aux formations de l'EFRAE, par rapport à ce que cette école va proposer, qui, comme je le disais, et se positionne sur tous les enjeux du numérique et aujourd'hui dans ce podcast sur les thématiques du job de UX Researcher. Donc c'est bien aussi de rassurer là-dessus, c'est bien aussi de présenter la qualité des intervenants parce que à la fois ça, une école est visible par ses étudiants et par ses intervenants, c'est quand même ça qu'il faut retenir. Donc moi je trouve ça hyper passionnant et j'espère que ceux qui nous écoutent sont dans le même cas que moi. Je pense que oui, sur ce métier qui encore une fois était un peu pour moi une découverte. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu la manière dont tu interviens dans ce fameux master UX et CX Innovation ? Est-ce que tu m'as parlé un peu de sortie, de découverte, de prendre le temps de regarder ? Est-ce que tu as des cours précis ? Est-ce que tu as des méthodes ? Est-ce que c'est des rendus ? Est-ce que c'est de la théorie et ensuite de la pratique ? Est-ce que c'est tout de suite en groupe ? Comment tu fonctionnes ?
Donc moi, je suis leur référent. Je les vois pas tous les jours, je veux qu'ils voient d'autres visions, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a autant de visions qu'il y a de... Et donc j'ai vraiment envie qu'ils voient un maximum de personnes et je suis pas là pour prendre du cash, comme tu viens de l'évoquer. C'est pas mon objectif, si je pars du principe que j'ai rempli ma mission et que j'ai transmis ce que je pouvais transmettre, je ne prends pas plus d'intervention. Je fais ce que je peux transmettre. Dans ce qu'on peut faire, c'est hyper varié. On peut très bien faire du neuromarketing, de la neuroscience, on peut très bien faire de la manipulation dans la publicité. Donc je leur montre, moi je fais pas mon mesmer sur TF1, mais je leur montre à travers un tour de magie comment on peut être manipulé et comment on peut être manipulé du coup directement sur le web, à travers des dark patterns, à travers des biais cognitifs, des formes de manipulation. Et eux, ce qui est très marrant, mais comme tout le monde, l'humain, et c'est ce qu'on appelle en psychologie l'erreur fondamentale d'attribution, c'est qu'on est persuadé de jamais se faire avoir parce qu'on est persuadé d'être super intelligent. Et comme on est persuadé d'être super intelligent, on se fait trois fois plus avoir. Et donc, du coup, c'est de montrer, de décrypter tout ça, tous ces messages-là. Bien évidemment, il y a une approche très méthodologique des choses. Ces approches méthodologiques, ça peut être des travaux de groupe à travers des sujets qui sont dans un premier temps fictifs, parce que je veux les faire se cracher sur des sujets fictifs pour derrière les faire rencontrer des vrais comptes, parce qu'en faisant rencontrer des vrais comptes, moi je me mets en danger, je fais venir des vrais clients avec qui je travaille, et donc si derrière le niveau est pas à la hauteur de ce que moi je vends à mon client, parce que mon client il faut qu'il vienne, il y a des prix derrière, il y a plein de choses. En ce moment il travaille pour un challenge L'Oréal par exemple avec une énorme dotation à la clé, donc ils sont en train de travailler sur ce sujet, donc ça va être avec des travaux réels et le but c'est se confronter derrière, aller vendre ça à des vrais clients. Ça peut être des travaux individuels parce que c'est important aussi de essayer de voir la montée en compétences individuelles, parce que dans des travaux de groupe on sait très bien comment ça se passe. Sur 6 personnes, il y en a 3 qui travaillent, donc le but c'est d'aller voir comment travaillent ces 3 autres dans des travaux individuels. Donc ça va allier plein de choses, ça va allier la théorie, la pratique, j'aime bien sortir de la classe aussi, de sortir, de déstructurer le truc très universitaire, et puis changer, d'innover, et travailler à travers des outils comme Figja, Miro, faire des ateliers à distance, en présentiel, je les amène à pitcher devant des enfants, je les amène à les pitcher dans des maisons de retraite sur nos métiers, pour parler à des gens qui ne connaissent pas ce qu'est l'UX, donc va pitcher à une personne qui a 80 ans, qui est en maison de retraite, qui a toute sa tête, attention, qui est pas alité, mais du coup, va lui pitcher ce qu'est l'UX. Ou va lui pitcher ce qu'est l'UX Research. Et donc, du coup, ça permet d'aller sortir, rencontrer, sortir de sa zone de confort un peu classique.
C'est exactement ça que je voulais entendre. C'est-à-dire que je voulais des exemples concrets, tu en as donné. Et je pense que c'est assez éloquent, pour ceux qui nous écoutent, de se dire qu'en fait, ce métier-là est tellement spécifique, il demande tellement de gymnastique intellectuelle aussi, comme tu as dit, de se dire, je vais pitcher à mes grands-parents ou à des personnes âgées pour peut-être retourner à l'essence même de notre métier, à quoi on sert, à quoi ça sert, est-ce que tu sais que ça, ça s'est pensé de telle manière. Et je pense que c'est aussi ce qui manque parfois à certains étudiants, de se dire, oui, je sais gérer les outils, mais est-ce que je sais apprendre? Est-ce que j'ai appris à apprendre? Tu vois, est-ce que je gère un outil en 2 mois, c'est fait, faut pas se mentir. Ce qu'il faut surtout, c'est donner le goût de l'apprentissage, apprendre à apprendre, découvrir, aimer, comprendre les choses pour ensuite savoir les expliquer. Et c'est quand même ça aujourd'hui qui fait qu'un étudiant va être un bon futur professionnel. Parce que oui, rendre les dossiers, c'est cool, faire les travaux de groupe, c'est cool, mais si tu sors de là et que t'as rien gardé, c'est quand même handicapant, parce que ça se trouve, l'outil, dans 2 mois, il est mort, tu vois. Il y en a un autre qui arrive.
Complètement. Je suis complètement en phase avec toi. Et on le voit de façon dont les étudiants... Moi, je suis très fan de la génération. J'ai pas un discours de vieux con, même si j'approche la quarantaine. J'ai pas un discours de vieux con qui est de dire, ouais, la nouvelle génération, ce que peuvent avoir nos parents. Moi, je suis très fan de cette nouvelle génération. Elle fait des trucs que je faisais jamais à l'école. Alors, les outils aident. Mais j'ai vu des gamins de 18 ans faire des choses techniquement, mais j'ai, hallucinant. C'est hallucinant, cette approche-là. Donc, je suis très fan. C'est une génération ultra engagée. Moi, sur ma génération, années 80, on n'est jamais sorti, on n'est jamais descendu dans la rue. On est en sociologie ce qu'on appelle des Woodstock du faux. On est des fakes. C'est-à-dire qu'on fait croire dans des dîners qu'on va chiner des meubles, mais on va chez Maison du Monde acheter un meuble un peu usé pour donner l'impression qu'il est chiné. Alors que la génération actuelle, elle descend, elle fait des choses contre la misogynie, contre le racisme, contre plein de choses. Et donc, je suis assez fan de cette génération et elle m'apprend plein de choses. Et du coup, je fais aussi, mais ça, faut pas trop le dire, mais mes études sociologiques en live dans mes interventions sur ces générations. Mais je suis assez fan de ça. Après, ce qui va faire la différence, moi, je le vois, je crée un énorme Notion, par exemple, à mes étudiants dont j'ai la référence, où je leur donne plein de ressources. C'est des Notions que je vends à des clients normalement, très chers, parce qu'il y a plein de ressources que je crée, et on le voit très vite si l'étudiant a la dalle ou pas. J'ai une énorme bibliographie que je leur donne, et si je le vois dans les cours, qu'ils font des références à des bibliographies que j'ai pu donner, ils font des références à des bouquins, ils font référence à des éléments qu'on n'a pas le temps de forcément voir en cours, puisqu'ils sont en alternance, ils travaillent, etc. Donc on peut pas tout dresser en cours, c'est pas possible. Et s'ils ont la dalle d'aller chercher l'information, d'aller la comprendre, ou je reçois un mail en disant j'ai vu ça, je comprends pas ça, ou on me fait un vocal, parce que j'ai tendance aussi à donner mon mail, mon téléphone portable, ils peuvent me faire des WhatsApp. Moi, je leur fais des vocaux pour leur expliquer s'ils ont des ateliers à mener dans le travail et qu'ils n'ont jamais fait des ateliers d'idéation. Et bah, ils me demandent, voilà, j'ai un atelier d'idéation, comment je peux faire? Et moi, je les structure, je leur fais des vocaux. Il y a un vrai suivi en dehors des cours. Parce que le temps des cours, on n'a pas le temps de tout voir. Et bah, ça aussi, on le voit à l'étudiant qui va s'en sortir, qui va avoir faim, et donc ça passe par aussi un investissement personnel en dehors qui est très important. Et je le suis, et je le dis tout de suite, si vous voulez rejoindre cette spé, ça sera avec grand plaisir, mais ultra exigeant avec eux. Moi, je suis pas là pour qu'ils m'apprécient, je suis là pour que ce soit des tueurs. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut travailler, apprendre. Après, j'ai une relation hyper fusionnelle avec eux, hein, mais je suis très exigeant. Et c'est pas parce que c'est une école privée qu'ils doivent forcément avoir 15. Non. Si t'as 15, tu l'as mérité et que c'est vraiment une note qui est très 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 bonne. Par contre, si t'as pas mérité, t'as pas 15. Mais du coup, le 15 a de la valeur.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas juste la presse était cool, l'idée était sympa. C'est important aussi de terminer là-dessus sur l'exigence, tu l'as dit, hein, c'est ça, la rigueur, le travail aussi, parce que 5 ans, c'est long en même temps, et en même temps, c'est hyper court. C'est-à-dire qu'après 5 ans, t'es censé être opérationnel, pouvoir créer de la valeur et être embauchable et répondre à un besoin. Donc ça peut être très rapide en même temps, très long. Je trouve que rigueur, c'est top. Et en même temps, comme tu l'as dit, être capable de sortir un peu du cadre.
Ouais, non, en fait, tu dis un truc qui est hyper intéressant et qui, moi, m'irrite au plus haut point. Mais je le vois et j'ai de la chance. Et aujourd'hui, on parle de les frais, mais j'ai la chance de pouvoir intervenir dans des grandes écoles, dans top 3 des écoles de commerce, etc. Et je peux le voir. Je peux l'observer, mais dans beaucoup d'écoles, nous, on n'est pas là pour juger les idées. Parce qu'en fait, une idée, c'est subjectif, une idée, ça compte pas. Et c'est pour ça que je fais quasiment plus de jury, parce que j'ai tendance à m'embrouiller, moi, avec mes co-jurys. Parce qu'en fait, il y a un truc qui m'insupporte au plus haut point, c'est qu'à la sortie d'un pitch d'un étudiant, d'arriver et de dire, ouais, en fait, je suis pas très fan de votre idée. En fait, on est personne pour juger les idées. Si on a la science infuse sur les idées, tu as introduit avec Monsieur T-shirt, j'ai eu la chance de pouvoir lancer quelques boîtes avant, mais il y en a beaucoup qui n'ont jamais marché. Et donc, si j'ai la science infuse sur les idées, chaque boîte que je lance, c'est un succès, c'est un carton. Nous, on est là pour juger la cohérence de l'approche. Je peux ne pas aimer l'idée, mais si c'est cohérent, je ne peux pas remettre en cause l'approche et la réflexion. D'où l'importance d'être un penseur et de pas être juste un exécutant d'idées.
Mais ça, c'est important et je pense qu'on peut terminer là-dessus et sur un petit conseil, mais effectivement, l'idée, c'est subjectif. Il y a des choses qui sont très réelles et très concrètes sur le choix d'une couleur, d'un angle, d'un mot, le champ lexical qui va procurer telle émotion. Ça, c'est pas entre guillemets indiscutable, mais c'est factuel et on peut le prouver. Par contre, effectivement, l'idée, l'avis, l'opinion, il peut changer, il peut varier. Mais par contre, si c'est bien motivé, si c'est bien présenté, si c'est bien amené, si ça découle avec une logique et qu'on peut l'affirmer, le confirmer, je trouve que ça a du sens. C'est ce que tu dis, hein. Donc, très clair pour moi, très très clair pour moi, et c'est bien aussi qu'on fasse le point sur tout ça, sur ce que tu attends de tes étudiants, comment tu aimerais les faire évoluer, parce qu'au moins, bah, ils savent à quoi ils peuvent s'attendre en rejoignant les bancs de l'EFRAY. Ils savent aussi ce qu'ils vont avoir en sortant, le bagage qu'ils vont pouvoir avoir en passant sur ces deux masters-là. Petit conseil pour terminer cet épisode hyper riche sur l'étudiant qui nous écoute, qui a envie de découvrir ses métiers, qui ne sait pas trop, qui a peur d'arriver sur un truc trop technique alors qu'il aime un peu, mais il ne sait pas vraiment si c'est ça. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un étudiant qui est dans ce cas de figure-là, qui aime ça, mais qui se dit « bon, bah, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas ?»
Alors déjà, juste pour rappel, on ne fait pas juste prototyper des applications ou des sites. On n'est pas juste sur « on proto ». C'est ce que je disais tout à l'heure, on est sur l'humain. Si vous aimez l'humain, si vous voulez comprendre l'humain, même si vous avez aucune appétence ou de compétence parce que les trois premières années d'études, je sais pas, vous avez fait autre chose ou vous voulez vous réorienter, nous on est là. Si la seule chose que moi je demande, c'est ayez faim, ayez envie d'apprendre et rejoignez-nous. Et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et si vous êtes passionné par ce qu'est quelqu'un et comprendre ce quelqu'un-là, cette personne-là, anthropologiquement, sociologiquement, c'est un métier qui va vous intéresser. Et bien évidemment, à 70% des projets, ça va être concentré sur le web, donc il faut aimer un peu ce qui se passe sur Internet, quand même, ou sur les Internets, si on est un peu plus large. Maintenant, vous pouvez travailler sur l'agencement d'une boutique chez IKEA. Vous pouvez très bien travailler pour l'agencement d'un événement qui se passe à Porte de Versailles. Vous pouvez travailler sur plein de choses. Et donc voilà, c'est... Je n'ai pas de conclusion.
Non, mais je trouve ça très bien. Si vous avez faim, que vous avez envie de découvrir un petit peu mieux cet univers, si vous avez envie de découvrir, tu as parlé de sociologie, on peut ajouter de l'ethnographie numérique, l'étude des communautés, des comportements.
Complètement.
Et après, ethnologie, si on est vraiment dans cette logique de travail.
Bien sûr.
Donc, passionnant. Si vous avez envie de découvrir cet univers qui est passionnant et qui nous élève et qui, en même temps, d'un point de vue très concret, offre des opportunités, parce que c'est un métier qui, aujourd'hui, je pense, est recherché, qui demande un certain niveau de compétence et un certain niveau de maîtrise. Et bien, ça se paye aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui sont en demande. Donc, c'est quand même sympa de se dire que ça recrute, malgré tout, et de se dire que sur ces jobs-là, peut-être pas une pénurie, mais en tout cas, il y a des postes à prendre et il y a plus d'offres que de demandes. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais en tout cas, il y a des jobs.
Ça recrute. La REM est quand même assez intéressante. On est quand même au-dessus, si on fait une moyenne à 5-6K d'un chef de projet digital classique, et les progressions sont très fortes. Ça recrute en France, ça recrute à l'étranger. J'ai la chance d'avoir voyagé, travaillé à l'étranger, et ça recrute, et la REM aussi à l'étranger est très forte. Donc, on vous attend.
Ça me paraît clair. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Romain, c'est top.
Trop cool. Merci de m'avoir reçu. Changez rien.
Écoute, on va faire ça et on verra si tu as une heure de dispo pour analyser un petit peu. J'ai un pote. En tout cas, c'est avec plaisir. Merci à toi, Romain. Merci à tous.
Merci beaucoup, Valentin.
Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, si vous avez des besoins d'informations sur les frais, évidemment, allez checker la page de l'école sur j'ai un pote.com. Et moi, je vous dis à très bientôt.